6h03, mardi 11 décembre. Bonne journée, bienvenue à l'antenne du 88.5 FM. D'abord, le ciel est assez couvert ce matin. C'est moins 9 degrés, donc une nuit froide, ennuagement, avec de la faible neige qui va commencer en mi-journée, des vents très légers, 15 km/h. Le maximum, je vous le disais, donc moins 5 degrés. Et on prévoit en soirée que la neige devrait cesser. Il y aura encore des flocons ce soir, là, mais graduellement, ça va s'arrêter. Très petite accumulation, autour de 2 cm. Et on prévoit un minimum de moins 12 pour la nuit. Pour demain, ça se dégage le matin. C'est du soleil, quelques nuages, plutôt froid, moins 10 degrés. Et l'aperçu pour jeudi, encore là, c'est du soleil avec moins 4 degrés. On viendra sur les grands titres ici dans quelques instants. Mais d'abord, on va aller causer avec notre envoyé spécial à Paris, Fabrice de Pierrebourg. Hier, c'était évidemment journée de comparution pour les casseurs qui ont été arrêtés et aussi le discours très attendu du président de la République française, Emmanuel Macron, qui a dit hier avoir ressenti la colère des Français, les Français les plus pauvres. Il a admis aussi qu'il avait pu blesser certains d'entre eux en leur donnant l'impression qu'ils n'étaient pas intéressés par leurs problèmes.
Leur détresse ne date pas d'hier, mais nous avions fini lâchement par nous y habituer. Et au fond, tout se passait comme s'ils étaient oubliés, effacés. Ce sont 40 années de malaise qui ressurgissent.
Alors, on sait qu'au-delà de cette mise en situation, le président Macron a annoncé une série de mesures, le relèvement du salaire minimum, également des avantages fiscaux qui seront accordés aux personnes retraitées, le temps supplémentaire qui ne fera pas l'objet d'imposition. Alors, Fabrice, est-ce que devant les mesures quand même concrètes annoncées par le président, le mouvement des Gilets jaunes va s'essouffler?
Ben Paul, moi, j'ai pas l'impression parce qu'effectivement, il y a eu ces quatre mesures qui visent, on va dire, les plus pauvres en France, les travailleurs à salaire minimum, les retraités, mais il n'a pas répondu à d'autres attentes, même si on ajoute à ça, d'ailleurs, faut pas l'oublier, la suppression de la taxe, la surtaxe qui devait intervenir sur l'essence en janvier pour la transition écologique. Il a laissé de côté, finalement, la classe moyenne, les chômeurs, les étudiants. Et hier soir et ce matin encore, les réactions étaient très mitigées. On comprend que l'Élysée, certainement, et Macron parient sur un fractionnement de ce mouvement qui est très hétéroclite, on le sait, parce qu'il balaye de l'extrême droite jusqu'à l'extrême gauche. Et ce matin, donc, même s'il y avait une des premières porte-parole des Gilets jaunes, Jacqueline Mourault, qui est la figure de proue, d'ailleurs, du mouvement, disait « maintenant, faut que ça arrête ». On va pas passer notre vie autour des ronds-points. L'économie est en péril. La majorité des Gilets jaunes sur les réseaux sociaux, sur les pages Facebook du mouvement, eux étaient très critiques, parlaient d'enfumage, de blabla. En gros, et je vais rappeler une formule qu'on a déjà entendue depuis le début du mouvement, c'est « il nous a donné des miettes alors qu'on veut la baguette ». Et puis c'est 100 euros qui se les gardent. Et il y a des voix maintenant qui appellent à manifester de nouveau une cinquième fois, Paul, samedi, entre autres Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise, qui lui a dit qu'il fallait que la révolution citoyenne continue. Donc on est sur ce ton-là, mais les citoyens, eux, les résidents de Paris, etc., les commerçants, tout ce monde-là, on a un peu marre, parce que, et ce que disait aussi Jacqueline Mourault, une des porte-paroles du mouvement, c'est que à un moment donné, ça va être une catastrophe économique pour la France. L'image de marque aussi, Paul, va être désastreuse. Tout à l'heure, le chauffeur de taxi me disait, vous savez, après les attentats de Paris en novembre 2015, on a vécu une année cauchemardesque. Ben là, on est reparti pour un tour. Et finalement, c'est tout le monde qui va en payer le prix parce que ces mesures, elles vont coûter au bas mot 15 milliards de dollars au gouvernement, à l'État. Il va bien falloir les financer d'une façon ou d'une autre. Et ceux qui veulent continuer disent, ben, il avait qu'à rétablir l'impôt sur la grande fortune. Et ça, c'est une mesure que M. Macron n'a pas annoncée hier, quoi.
Bon, parlons aussi des comparutions à Paris des gens qui ont été interpellés durant le week-end.
Oui, on rappellera le chiffre quand même colossal. À Paris, il y a eu 1 million d'interpellations, Paul, en majorité avant la manifestation, en vertu d'un article de loi tout nouveau qui est assez décrié, qui est l'intention de participer à un groupement en vue de commettre des violences. Alors, depuis hier après-midi, il y a 5 salles de tribunal qui fonctionnent à plein régime et j'ai assisté aux comparutions qui se succédaient toutes les 30 minutes. J'ai vu quoi là? Ben, j'ai vu beaucoup de citoyens de province. C'est d'ailleurs le portrait robot des gens arrêtés, moins de 40 ans. Beaucoup travaillent, ont des petits emplois. Mais le problème, c'est qu'on a trouvé souvent dans leur sac des boules de pétanque, des protections, des fusées, des bombes lacrymogènes, des casques, des masques. Et là-bas, le système fait en sorte que c'est le président du tribunal qui questionne les accusés. Et des moments, c'était assez surréel parce que tous disaient qu'ils avaient pris ça sur eux parce qu'ils voyaient les images à la télévision et qu'ils voulaient se protéger des casseurs. Il y en a un autre, on a trouvé un insigne nazi dans son sac. Le président lui a demandé qu'est-ce qu'il faisait avec un insigne nazi. Le duc ne savait pas. Et là, le président s'est énervé. Il lui a dit, vous ne connaissez pas l'histoire, monsieur, vous ne connaissez pas les camps de concentration. Les peines réclamées hier étaient très lourdes. Elles variaient de 3 mois à 6 mois, souvent avec sursis. Mais on avait le cas, par exemple, d'un technicien en centrale nucléaire. Et son avocat a dit, écoutez, si mon client est condamné, c'est catastrophique. Il n'aura plus de code de sécurité. Il ne pourra plus travailler. Les décisions vont être rendues très rapidement, mais on voit que ça a été mené tambour battant. Le gouvernement veut envoyer un signal de fermeté vis-à-vis des casseurs.
Merci beaucoup, Fabrice de Pierrebourg, qui nous parlait en direct de Paris. Bon, passons aux autres nouvelles. D'abord, le cas de Gilbert Rozon. Je ne veux pas répéter ce que Monique vient de nous dire, mais en gros, c'est que l'enquête est terminée. Le procureur a pris les décisions dans le dossier et la première étape, c'est d'en informer les plaignantes. Jusqu'ici, on peut vous dire qu'il y a 4 dossiers où les plaignantes ont été rencontrées et dans les 4 cas, elles ont su qu'il n'y aurait pas d'accusation. Et je vais être très prudent dans le propos parce que s'agit de conversations privées et ça varie énormément d'un dossier à l'autre. Ça veut dire que le procureur estime qu'il n'a pas les éléments de preuve pour aller en procès et donc déposer des accusations. On verra au terme de la journée combien de dossiers ont été enquêtés et est-ce qu'il y aura, oui ou non, des accusations dans certains dossiers. Pour l'instant, ce qu'on peut vous dire, c'est que c'est 0/4. Voilà pour l'histoire de Gilbert Rozon. Parlons maintenant de l'élection hier dans Roberval. C'est une victoire de la CAQ, 75e comté. Alors, le lac bleu CAQ, pour reprendre l'expression de François Legault. Et c'est une victoire très claire, puisque la candidate de la CAQ a obtenu plus de 50% des voix, Nancy Guilmette. C'est l'ancien comté de Philippe Couillard, pas besoin de le rappeler. Et le Parti libéral arrive 3e dans cette circonscription. Donc, c'est un taux de participation qui n'est pas très élevé, là. C'est un peu le cas quand on se retrouve dans une élection partielle à 34,5% des voix. On va aller retrouver Marc pour les points chauds de ce début de journée. Merci beaucoup. On revient sur l'histoire de cette enseignante, Katia Dufault, qui est une enseignante à la commission scolaire de la Seigneurie des Mille-Îles, que notre collègue Patrick Lagacé nous a fait découvrir. Donc, une enseignante qui parlait et qui dénonçait la situation dans sa classe, dans son école, en disant, entre autres, que des élèves en difficulté d'apprentissage, ça ne devrait pas se retrouver dans des classes régulières, ordinaires, et que surtout, on n'avait pas été capable de lui fournir de l'aide nécessaire. Et on sait qu'elle a quand même clairement dénoncé, et avec raison, les conditions d'enseignement. Prends pas un exercice complexe pour savoir que beaucoup de profs sont épuisés, que beaucoup de profs sont découragés, ils sentent pas le soutien, là, malgré les propos du nouveau ministre de l'Éducation. Alors, Mme Dufault, donc, a reçu une lettre et une lettre de congédiement. Et on lui reproche d'avoir donné des entrevues, d'avoir, évidemment, manqué de loyauté à l'égard de son employeur. Hier, vous avez vu des collègues qui sont sortis pour dire que ce qu'elle disait, ben, ils vivaient la même situation. Et là, le ministre de l'Éducation, M. Roberge, veut briser la loi du silence dans le réseau scolaire. Il souhaite ajouter dans les conventions collectives une clause qui garantit la liberté de parole des enseignants qui veulent dénoncer les travers du système. J'ai reçu le communiqué de la commission scolaire. La libre expression n'est pas un motif de congédiement. Et là, on nous explique que c'est avec stupéfaction que nous avons lu la chronique de M. Lagacé. Son congédiement serait relié au fait qu'elle a parlé de ses conditions de travail dans les médias. Cette affirmation est fausse. Mais là, la commission scolaire, évidemment, se protège en disant « on ne peut pas vous dire la vérité. C'est un dossier personnel, il y a une loi qui existe et ça nous interdit de commenter le dossier d'une employée. » Mais on ajoute, et c'est ça où c'est vicieux un peu beaucoup même, « dans ce dossier spécifique, nous ne sommes pas autorisés à préciser ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Nous pouvons simplement dire que si l'ensemble des éléments de ce dossier avaient été partagés publiquement, cela aurait suscité bien moins d'intérêt. » Donc, elle a fait des affaires bien graves. Parce que c'est rare qu'on congédie un prof ou un employé dans une commission scolaire. C'est rare aussi que le nom apparaît comme ça, sur la place publique. Elle a parlé à des médias, elle a parlé à Pat Lagacé, elle m'a donné une entrevue le matin même, je pense qu'elle a fait Denis Lévesque. Bon. Et elle dit, la commission scolaire, que la libre expression ne fait pas partie de ses motifs. Fait que là, tu dis, OK, c'est quoi d'abord? Je ne peux pas vous le dire. Mais c'est ça le problème. Parce que combien de courriels je reçois des gens du réseau de la santé, des gens du réseau de l'éducation, je parle de profs, mais de directeurs, puis c'est toujours la même chose. Monsieur Arcand, s'il vous plaît, taisez mon nom. Je ne veux pas perdre mon emploi, je ne veux pas être victime de représailles de la part de mon employeur. L'employeur étant l'État québécois, et les courriels qui me sont adressés portent sur les conditions de travail ou encore sur les conditions dans certains centres de soins de longue durée, dans certaines écoles du Québec. Bref, c'est des gens qui disent « il faut que ça se sache ce qui se passe dans les écoles, dans les hôpitaux puis dans les centres ». Et le réflexe, c'est toujours pareil, le réflexe, c'est de faire taire les gens parce qu'on brandit à toutes les fois la loyauté. Alors là, le ministre veut qu'il y ait des clauses dans les conventions. Et sincèrement, je trouve ça un petit peu particulier de la commission scolaire des Mille-Îles, de France Pedneault, la directrice du service des affaires corporatives et des communications, en disant « on ne peut pas rien vous dire, mais mon Dieu, si vous saviez les faits, on serait complètement ailleurs. » On sait que Justin Trudeau avait tweeté un don de 50 millions pour le développement d'enfants vivant, entre autres, en Afrique et dans des conditions de guerre et de misère. Et là, il nous a dit, ben non, mais ça, c'était déjà prévu dans le budget. Je n'ai fait que réitérer l'annonce. Dans le Journal de Montréal, ce matin, on nous parle du ministre délégué à la Santé, Lionel Carman, qui a promis en fin de semaine sur Twitter 25 millions pour la prévention et la sensibilisation contre le cannabis. Alors, il y a quelqu'un qui lui a demandé, mais c'est pas déjà dans ce qui a été annoncé, le 25 millions, il n'y a pas déjà des budgets, des montants qui sont prévus pour, justement, alimenter le fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis. Or, le ministre a dit qu'il s'agissait d'un montant additionnel aux sommes déjà prévues. Ah, tu dis de l'argent neuf, 25 millions. Et là, quand on demande à l'attaché de M. Carman, de qu'on parle au juste, là, le don est devenu une intention. Ah bon? Et que c'est pas ficelé à 100%. Alors, il n'y a pas de suite, évidemment, à cette histoire-là, mais quand même, quoi, c'est tendance d'annoncer des subventions, des montants dans de telles situations. On va vous parler aussi de travailleurs de la DPJ ce matin. Il y a une étude qui a été menée et qui montre à quel point les travailleurs de la DPJ peuvent s'exposer à des situations extrêmement violentes. Et la violence, c'est le quotidien. On parlait des profs tantôt, là. C'est le quotidien des profs, on le sait, dans plusieurs écoles. La violence physique, la violence verbale, même aux primaires. Et on peut imaginer quand des gens de la DPJ interviennent dans des milieux où déjà il y a de la violence, ou en tout cas quand la DPJ débarque dans ta vie, c'est qu'il y a un certain nombre de problèmes, habituellement, bien, ces gens-là vivent des situations qui sont graves. Parfois, c'est de la violence venant des ados, des enfants, puis d'autres fois, ce sont les parents qui, dans certains cas, vont jusqu'à la violence physique. Donc, on vous parlera de cette étude qui a été rendue publique. Également, dans la presse, programme d'aide aux médecins du Québec, fameux cas de médecins en détresse. Il semble que les demandes ont connu une hausse significative pour une deuxième année consécutive. Le programme est venu en aide à 1618 médecins, en hausse par rapport à l'année précédente où on avait 1500 médecins. Donc, beaucoup de médecins qui vont comme ça chercher de l'aide. Je vais vous parler d'une enquête concernant les pirates de la télé. C'est une histoire assez fascinante qui est dans la presse de ce matin. Plainte de Bell et de Vidéotron. Et Dieu sait que les deux travaillent rarement main dans la main. Mais ils ont porté plainte contre une compagnie qui s'appelle Cielo 4K. Et c'est la GRC qui enquête. Là, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Et les gens sont avares de commentaires. Mais ce qu'on peut vous dire, à la lumière de ces informations recueillies, c'est qu'on a fait une perquisition dans une résidence de Boisbriand d'un ancien employé d'un sous-traitant de Vidéotron. Puis là, on a trouvé des ordinateurs, des modems, des récepteurs de Bell, de Vidéotron, DirecTV, des capteurs d'ondes satellites, des cartes de piratage satellite, tu sais, l'équipement, environ 150 articles de matériel technologique et informatique. Alors, c'est quoi le stratagème? C'est qu'on offrait un abonnement télé par Internet. On vous vendait ça, là, la compagnie Cielo 4K, 35$ par mois, ou encore 350 par année. Là, il paraît que ça ne fonctionne plus. Et eux, ils pirataient les signaux de Bell et de Vidéotron et vous renvoyaient ça. Alors, eux, illégalement, s'appropriaient les signaux en question et vous vendaient ce type d'abonnement. Alors, je répète, il n'y a pas d'accusation encore comme telle. Je me souviens de d'autres cas où il y a des gens carrément qui pirataient le signal de Vidéotron. Puis il y avait une poursuite à l'époque. Vidéotron reprochait à Bell de se traîner les pieds, de ne pas être très proactif contre les pirates, les gens comme ça qui siphonnaient ou qui obtenaient gratuitement le signal. Alors, dans la presse, vous allez retrouver ça ce matin. Rapidement, dans les autres nouvelles, le Journal de Montréal, malheureusement, je dirais que c'est presque un classique, des boîtes de dons qui sont pillées avant Noël, des organismes communautaires qui déplorent que des voleurs comme ça vont fouiller dans les boîtes et partent avec des vêtements, par exemple, qu'on peut y laisser. Puis, tu sais, les gens font ça de bon cœur, puis tu as des espèces de gros dépôts. Puis là, tu apprends qu'il y a des gens qui vont voler ça. Dans les autres nouvelles, donc, le paiement de péréquation pour le Québec, ça fait grogner dans l'ouest du pays. Parce qu'au total, là, le Québec va recevoir 66 % du programme de péréquation. Une seule province, 66 % du cash. Et là, vous avez les premiers ministres de l'Ouest qui disent « On veut bien partager la richesse, mais est-ce que le Québec peut nous aider à poursuivre notre voie sur la richesse? » Donc, à nous permettre de vendre du pétrole à l'étranger. François Legault a dit non, a qualifié ça d'énergie sale, en disant « Moi, j'ai à vendre de l'électricité qui est de l'énergie propre. » Alors, les provinces de l'Ouest veulent qu'on revoie la formule de péréquation en disant que ça n'a pas été créé pour qu'une seule province puisse obtenir autant d'argent. Alors, c'est sûr que, évidemment, ça fait extrêmement jaser. Parlons de la conférence sur les changements climatiques pour vous dire que le président Trump, l'équipe américaine, qui n'est pas seule, là, entre autres avec des appuis de la Russie, de l'Arabie saoudite, évidemment, et de l'Australie, qui veulent tempérer les ardeurs des militants verts en disant qu'on ne peut pas envisager sérieusement d'abandonner les énergies fossiles, donc pétrole, gaz, rapidement, parce qu'un retrait, ou aussi on peut inclure le charbon, là, qu'un retrait est tout à fait irréaliste et que ça va heurter l'économie. Et on sent que les États-Unis, là-dessus, ont une position quand même assez claire. Et puis, en terminant, je vais vous revenir sur cet article, j'en ai glissé un mot hier matin, que sur la capacité qu'ont des entreprises de vous géolocaliser grâce à votre téléphone cellulaire. Il y a des New-Yorkais qui font l'objet de filatures en temps réel. Écoutez, on est capable, là, 14 000 fois par jour, d'aller chercher une information vous concernant. Puis même si officiellement, on n'a pas les noms, c'est assez facile de savoir qui vous êtes. Et ce data est vendu à des entreprises à gros prix qui veulent tout savoir. Ça va de la petite application pour la météo que vous avez. Puis là, on vous demande, bien, laissez-nous vous géolocaliser, puis on va vous donner la météo sur votre région, dans votre coin. Bien, après ça, on est capable de suivre vos déplacements. Il y a des moyens de se protéger de ça, mais on va en parler tantôt. Il est 6h23, 25 secteur de Terrebonne.